Surprise. Cette semaine, Rebecca Amselem rencontre Vivian Gornick, l'autrice de plusieurs romans incroyables tels que Attachement féroce, ou La femme à part. Vivian Gornick est une autrice, journaliste, et activiste féministe. Elle vit actuellement à New York. Elle a 83 ans. Rebecca Amselem. Votre travail interroge la manière dont le personnel est politique. Durant cet entretien, je vais essayer de distinguer deux sortes de questions. La première partie se concentrera sur votre travail d'autrice et d'activiste. La seconde permettra de réfléchir à quoi une révolution et une utopie féministe peuvent ressembler. Vivian Gornick. Ah, mais nous n'y sommes pas déjà. Rebecca Amselem. Je ne sais pas, vous trouvez? Dans Attachement féroce, vous décrivez votre expérience de vie dans un immeuble où vivent presque uniquement des femmes. On ressent quoi quand on vit exclusivement entouré par des femmes? Vivian Gornick. C'était un immeuble dans le Bronx, un quartier ouvrier. À l'époque, c'était très courant, et ça l'est toujours, que les femmes, et les hommes mariés issus de cette classe ouvrière vivent dans des espaces, et des cultures séparées. D'une part, il y avait beaucoup d'hommes qui mouraient, et les femmes devenaient veuves. D'autre part, dans les circonstances plus heureuses, les hommes d'un côté, et les femmes de l'autre restaient très secrets les uns envers les autres. C'est un peu ce que j'ai essayé de retranscrire. Par exemple, c'était très courant qu'une femme qui tombe enceinte, et ne veuille pas d'enfant, ait recours à un avortement sans que son mari n'en sache jamais rien. C'est ça que j'entends par « les secrets des femmes ». J'ai moi-même grandi avec une mère veuve, notre voisine était veuve, et la femme de l'autre côté du couloir haïssait son mari. Elle s'échappait tout le temps par la fenêtre pour retrouver son amant. C'était une communauté de femmes, et d'enfants. Même si les enfants étaient des garçons, ils étaient intégrés à une communauté de femmes. Rebecca Amselem. Dans La femme à part, vous mentionnez à quel point il est difficile de se battre en même temps pour ses propres droits de femme, et pour refuser de correspondre aux normes. Vous appréciez être une « outsider » Vivian Gornick. Eh bien je ne savais pas vraiment que j'étais une outsider jusqu'à ce que je devienne écrivaine. À ce moment, j'ai découvert que j'étais une outsider pour plein de raisons. Parce qu'en tant que féministe, ce que j'écrivais était polémique. Au début j'étais surprise, je ne savais pas trop quoi faire de cette position. Et puis, je m'y suis habituée. J'ai réalisé que je pouvais dire tout ce que je voulais, puisque j'étais une outsider. Je n'avais rien à perdre, il n'y avait rien que les autres aient, et que je ne puisse avoir grâce à cette position. Plein de gens autour de moi me disaient, non, n'écris pas ça, tu ne trouveras jamais de place dans les milieux académiques, ce qui était faux. Puisqu'il se trouve qu'après ça, mes écrits ont été plébiscités. Et oui, je pense que vous avez raison. Sans vraiment parler d'apprécier cette position, après un moment j'ai commencé à me sentir libre d'une certaine façon. Si vous arrivez à prendre les commandes de votre travail, vous créez vos propres règles. Vous n'êtes pas une outsider, lorsque vous avez peur de perdre des faveurs de la part de celles, et ceux qui ont des emplois à offrir, qui tiennent des journaux, qui éditent des revues de critiques, ou tout simplement des choses que tu veux. Du coup, dans mon cas, je suis définitivement une outsider, et c'est vraiment bien comme ça. Rebecca Amselem. Vous avez dit. C'est ici, dans ma condition de femme, et non de juive, que je dois me battre, et me positionner. Cela signifie-t-il que vous aviez à choisir un combat? Vous avez également souligné que le féminisme avait définitivement éteint votre attachement émotionnel pour le judaïsme, est-ce, parce qu'avec ces deux casquettes vous aviez le sentiment d'être deux fois plus considérée comme une outsider? Vivian Gornick. Ce n'était pas vraiment un choix que j'avais à faire, à vrai dire, je me suis rendu compte qu'être juive n'était plus un problème effrayant ni menaçant en Amérique. Même, lorsque j'étais confrontée à de l'antisémitisme, j'ai réalisé que ça ne m'effrayait plus, parce que je savais qu'il n'allait rien m'arriver, ici, aux États-Unis. En revanche, quand j'ai été victime de sexisme, quand je suis devenue sensible à ces questions, et que je suis devenue féministe, j'ai compris à quel point toutes ces questions de discrimination de genre avaient eu une influence sur ma manière de me développer. Parce que le féminisme est une question très actuelle, et une question de vie quotidienne. Le judaïsme ne l'est plus à mon sens. Quand j'étais enfant, mes parents étaient assez effrayés par l'antisémitisme. J'ai grandi, et l'assimilation est venue extrêmement rapidement. Dans les années 80, c'était une affaire pliée. Ce n'était plus une menace, nous n'avions plus peur de perdre notre vie pour ça. Rebecca Amselem. En tant qu'autrice, et activiste, vous avez pris part au mouvement féministe radical des années 70, quel rôle y avez-vous joué? Aviez-vous alors le sentiment de devoir choisir entre une position d'écrivaine qui doit parler à un large public, et une position militante? Comment avez-vous réussi à être les deux à la fois? Vivian Gornick. Je ne me suis vraiment jamais vue comme une activiste, ça ne m'est pas apparu de façon nette, et tranchée. À cette époque, je travaillais pour le journal culturel The Village Voice, et la rédaction laissait les rédactrices et traducteurs écrire sur tous les sujets qu'ils ou elles souhaitaient. Ça m'a semblé évident. La seule chose dont je ne me lassais jamais de parler, c'était le sexisme. Tout le temps. Une fois que vous voyez cette lumière, elle est partout. Si j'allais à un dîner, je voyais du sexisme partout, et je rentrais à la maison pour écrire un article sur cette expérience. Si je lisais un livre, ou une pièce de théâtre, si je faisais une promenade, peu importe où j'allais, je le voyais, je le sentais, et j'écrivais dessus constamment. Cependant, quand il a été question de rejoindre un groupe pour protester, faire une manifestation, ou faire partie de grosses conférences de presse, ce n'était pas trop mon truc. Vous savez, quand j'ai commencé à m'affirmer comme féministe, et à revendiquer mes droits, beaucoup de choses bougeaient déjà aux États-Unis. Beaucoup de femmes s'engageaient en même temps. Gloria Steinem, Betty Friedan, Kate Miller, tout le monde était là, à New York. Elles se revendiquaient toutes activistes, elles faisaient toutes des conférences de presse, et elles le faisaient parfaitement. Dans cette mesure, je ne me voyais pas trop prendre cette place. J'avais une grande gueule, mais je n'avais pas trop d'appétence pour les réunions, et les manifestations, la seule manif où je sois jamais allée, était celle de Washington. Bref, je n'étais peut-être pas trop une activiste dans ce sens, mais j'en étais une grâce à mes écrits. Rebecca Amselem. En même temps, il n'y a pas une seule façon d'être une activiste. Vivian Gornick. Totalement, et j'étais très à l'aise avec ma propre façon de l'être. Rebecca Amselem. C'est impressionnant à quel point les activistes décrivent le même sentiment de conversion à partir du moment où vous voyez la lumière une fois, vous la voyez partout. Vivian Gornick. Absolument. C'est vraiment ce que notre génération a ressenti. Ce qui arrive en ce moment par exemple, avec le mouvement MeToo, ce n'est pas vraiment la même chose. C'est plutôt un résultat de notre prise de conscience. Mais à notre époque, il y avait vraiment ce sentiment de conversion, presque de manière religieuse. C'était révolutionnaire de plein de façons, et on a essayé d'en tirer le meilleur. Il y avait une vraie cohérence dans cette lutte par le fait que cela englobait une multitude de sujets politiques bien plus généraux. Il n'était pas question de résoudre un problème isolé, c'était vraiment politique. Je ne me rendais pas compte à l'époque à quel point la politique infusait dans nos vies. Maintenant que je regarde en arrière, et que j'observe la génération à laquelle j'appartenais, que j'observe mon histoire à la rédaction du Village Voice dans les années 70 et 80, tout le monde était politisé. MeToo n'est pas vraiment une révolution, il faut plutôt le prendre pour ce que c'est. La mesure du changement social. C'est-à-dire, un témoin qui explique comment le changement social s'installe. Dans ce cas précis, c'est un petit changement. Le terme d'harcèlement sexuel n'est pas nouveau, il est vieux de 50 ans, et rien n'a suffisamment changé depuis son apparition. Notre génération a déjà dit tout ça. À cause du déni, rien n'a bougé, et aujourd'hui, tout s'est transformé en colère. Ce n'est pas vraiment révolutionnaire, cela témoigne plutôt de la manière lente qu'ont les choses d'évoluer. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes femmes sont tellement en colère aujourd'hui. Rebecca Amselem. Je pense que cette colère nous permettra d'atteindre la réelle révolution. Vivian Gornick. Qu'entendez-vous par révolution? Rebecca Amselem. Si on continue le même type d'activisme, écrire des tribunes, des livres, pour dénoncer le sexisme, et revendiquer nos droits, rien ne changera jamais. Le fait est que tous les articles que vous avez écrits dans Village Voice durant les années 70 n'ont pas suffi. Vous aviez pourtant développé toutes les idées rationnelles qui justifiaient ce mouvement. L'écart de salaire, les discriminations, la charge mentale, et cela fait combien de temps? 50 ans? Qu'est-ce qui a changé? Vivian Gornick. Déjà, vous ne seriez pas là si rien n'avait changé. Ensuite, je pense que la révolution n'est pas le bon terme. Il s'agit d'un mouvement pour la justice sociale, et c'est la démocratie qui doit être responsable. Ce qu'on veut, c'est intégrer le système à part entière, avec les mêmes chances, et les mêmes opportunités. Ce n'est pas réellement une révolution dans le sens où on détruirait tout. Homosexuels, noirs, femmes, tout le monde veut faire partie du projet démocratique. Tous les mouvements de libération sont des mouvements pour la justice sociale. Mais les termes du système ont déjà été établis par la démocratie libérale. Aux États-Unis par exemple, la démocratie commença avec la Révolution française, mais les Américains l'ont mieux réussi si je peux me permettre, dans le sens où ils ont créé une constitution avec l'idée d'égalité pour toutes et tous. Certes, ils ne l'ont pas réalisé. Ils n'ont pas pensé aux femmes, aux noirs, aux indiens, et année après année, il y a eu de plus en plus de colère, et de protestations parmi les Américains US à qui on avait promis ça. Ils l'ont vécu comme une fausse promesse, un mensonge. Et nous voilà à vivre comme des citoyens de seconde classe alors qu'on nous avait juré qu'on serait toutes égaux. Par conséquent, ce n'est pas une révolution, c'est vraiment un mouvement pour la justice sociale. Mais c'est aussi le plus difficile à mener selon moi, parce qu'on couche avec l'ennemi. Nous sommes constamment en interaction avec les hommes, et les relations entraînent forcément des complications. On a toutes des frères, pères, maris, ou amants, qui eux-mêmes ont des filles, des sœurs. On entretient des relations dans lesquelles on s'aime, et on s'honore, et c'est ce qui rend le progrès politique d'égalité vraiment difficile. En ce qui concerne le mouvement MeToo, même si la structure du système ne s'effondre pas, il y aura des petits changements sociétaux. Et même s'il n'y a qu'une centaine de personnes qui seront élevées différemment après ce mouvement, c'est déjà ça. En ce moment, on lit des tribunes dans le New York Times sur comment les hommes ont peur d'être seuls avec des femmes au bureau. Ça semble ridicule, mais néanmoins, c'est positif quelque part, ça donne de l'espoir. Tous les 50 ans, il y a un embrasement pour la cause féministe, et un petit peu de progrès vient en même temps, même si ça peut être très lent. Par exemple, je suis là aujourd'hui grâce à Women in Publishing, parce que sinon, nos ennemis ont tout fait pour endormir l'Europe sur les questions féministes. Rebecca Amselem. On essaie si fort d'intégrer, et de s'intégrer à ce système. Mais les choses évoluent si lentement qu'il est peut-être plus judicieux de penser à un tout nouveau système? J'aime beaucoup la manière dont vous me regardez maintenant avec un air de compassion, elle est jeune, et naïve, et ne connaît pas trop le monde encore. Vivian Gornick. Incroyable, vous pouvez lire dans mes pensées. Non. Je sais que quand vous y réfléchissez, vous pouvez constater des grands changements. Vous savez, j'ai deux nièces. J'ai 80 ans, et elles ont la soixantaine. Elles sont toutes les deux des working girls, et l'une d'entre elles est vraiment « bossy », c'est une vraie dynamite. Elle me dit tout le temps « tu m'as donné le pouvoir de faire ce que je veux de ma vie ». Si ce n'était pas grâce à nous, elle ne ferait pas ce qu'elle fait. Il y a des milliers de femmes qui occupent aujourd'hui des postes qu'elles n'auraient jamais pu occuper auparavant. Elle n'y aurait même pas songé. Voilà le genre de progrès qui s'est opéré, même s'ils ne sont pas suffisants dans toute leur ampleur. Avec le mouvement MeToo, d'une certaine façon, des choses ont changé. Toutes les révélations sur le harcèlement de la prédation sexuelle au travail, et dans les lieux publics m'ont énormément choquée, car j'ai pu constater ô combien rien n'avait changé. Je n'aurais vraiment pas pu imaginer que rien n'avait changé, que tout était pareil qu'avant. Je suis sûre que vous êtes pire en France, cela dit, le pays le plus sexiste du monde. Rebecca Amselem. Oui, ça fait soi-disant partie de notre culture, la galanterie. Vivian Gornick. Classique, les femmes ont le droit à un peu de galanterie, parce qu'elles n'ont pas de pouvoir. C'est le deal. Quand vous faites ça en tant qu'homme, vous révélez que vous considérez les femmes comme une autre espèce différente de vous. Quelqu'un qui occupe une position dans le monde, et la culture dans laquelle vous vivez, mais qui n'est pas comme vous, qui n'est pas vous. La première chose que les féministes américaines ont dit aux hommes, c'est vraiment « arrête de me tenir la porte ». Je peux passer la porte seule. Oh, j'étais juste poli, répondent-ils trop souvent. Non. Quand toutes les révélations ont éclos à propos des harcèlements sexuels à la télévision, dans le milieu du cinéma, dans les entreprises, dans les écoles, dans les laboratoires, dans les usines, je me suis rendu compte que partout les hommes continuaient de regarder les femmes, non pas comme des figures d'altérité, mais comme des objets. Ça me choque tellement. Je n'aurais vraiment pas pu imaginer que les choses avaient si peu bougé. Regardez à quel point c'est lent. Rebecca Amselem, est-ce que ça mieux en vieillissant? Vivian Gornick, qu'est-ce qui irait mieux en vieillissant? Rebecca Amselem, la rage de vouloir tout changer? Vivian Gornick, d'un point de vue politique, je n'ai jamais été si énervée que ça, parce que je suis une enfant de la gauche. J'ai été élevée par des socialistes, et des communistes. Et donc, dès que je suis arrivée à l'âge adulte, j'ai compris que tout changement allait nécessiter beaucoup beaucoup de temps. Alors que je traînais avec des gens qui étaient persuadés que la révolution était proche, moins de 10 ans, disait-il. Et donc quand je suis devenue féministe, la découverte que les femmes étaient des citoyens de seconde zone, que nous étions élevées pour devenir des mères, et des épouses a été un énorme choc, une vraie révélation. Mon travail est devenu de nommer, d'écrire ce qui était sexiste. De la même manière qu'en tant que juive, à chaque fois que je vois quelque chose d'antisémite, je le qualifie comme tel. Je ne peux pas laisser filer. J'ai été très choquée par le mouvement MeToo. Je ne pensais pas qu'il existait autant d'harcèlement sexuel dans tous les milieux. D'Hollywood à Washington, dans les usines, dans les bureaux, dans les restaurants, partout où les femmes travaillent. Je ne pensais pas que les relations entre les femmes et les hommes étaient encore les mêmes, que les hommes étaient libres de traiter les femmes comme des objets, et que les femmes se sentaient obligées d'être traitées comme telles. Cela me fait aussi mal d'entendre une femme dire « j'étais obligée de coucher avec lui sans quoi je n'aurais pas la carrière que j'ai eue », que d'apprendre qu'un homme l'a touchée. Chacun voit l'autre comme un objet. Rebecca Amselem, et en France, c'est pareil. Vivian Gornick, à ce titre, la France est probablement un des pays les plus sexistes au monde. Elle l'a toujours été, et il y a peu de progrès, mais l'existence de nombre d'intellectuels qui travaillent sur la question depuis plus de 30 ans. Rebecca Anselem, dans l'article que vous avez écrit dans le Village Voice, vous citez une femme qui dit « Je suis désolée, c'est juste que je ne me sens pas opprimée. » On entend encore aujourd'hui ce type de réflexion? J'en entends souvent. Vivian Gornick, le jour où ces femmes auront la révélation que j'ai moi-même eue, il y aura une révolution. Quand on est féministe, on a l'impression que nos vies sont si proches, si ancrées dans l'histoire. Et que l'histoire est entrée dans nos vies. Le changement social arrive malgré les réticences des personnes qui en bénéficient. C'est la plus vieille histoire du monde. Il n'y a eu aucune révolution qui s'est passée avec l'assentiment de toute une population. Elizabeth Cady Stanton, une suffragette américaine, dont j'ai écrit une biographie, a, à cet égard, dit que la majorité des personnes se contentent de ce qu'il leur est donné. Et cela incombe à un petit groupe de personnes de définir ce qu'est la liberté, au sens large, et de se battre pour cette liberté. La peur du chaos social, chez certaines personnes, est plus forte que tout. Les gens feraient presque tout pour éviter que les choses soient sans dessus-dessous. Quand les féministes ont commencé à dire, les femmes, et les hommes ne vont pas continuer à vivre les mêmes vies qu'avant, les choses vont être vraiment différentes. Le retour de bâton du conservatisme a commencé, et Donald Trump en est la conséquence. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de jeunes hommes, et de jeunes femmes qui se proclament féministes. Les termes sont différents. Dans les ménages aussi. Les femmes ne veulent plus faire plus de tâches domestiques que les hommes. Il s'agit évidemment d'un pourcentage marginal de personnes, mais ce chiffre augmente. Et le mouvement MeToo permettra de faire croître ce chiffre encore davantage. Rebecca Anselem, toutes les générations d'activistes féministes ont entrepris chacune à leur manière cette réflexion pour redéfinir ce que veut dire être une femme. Pensez-vous qu'il faut aller plus loin aujourd'hui dans les luttes féministes, et engager les hommes, et que redéfinissent ce qu'être un homme signifie? Vivian Gornick, aux États-Unis, beaucoup de jeunes hommes veulent, et sont capables d'abandonner les conventions liées à la virilité, et la subordination des femmes. Les femmes se sont jointes à des révolutions générales, et se sont ensuite rendues compte qu'elles-mêmes étaient considérées comme des enfants. Toutes les féministes de ma génération sont issues de la Nouvelle Gauche. Les hommes issus de la Nouvelle Gauche, alors qu'ils se battaient pour de grandes causes comme la fin de la guerre au Vietnam, traitaient les femmes comme de la merde. C'était terrible. Ces hommes n'ont jamais changé. C'est pourquoi la très grande majorité des femmes que je connais, de ma génération, ont quitté leur mari. J'ai été mariée deux fois. Mais l'échec de ces deux mariages peut complètement m'être imputé. La première fois j'avais 25 ans, la seconde 31. C'était avant que je comprenne quoi que ce soit au féminisme, les deux fois je me suis mariée de mauvaise foi. Je n'avais pas vraiment envie de me marier, mais quand j'étais une petite fille, vous n'étiez pas normale si vous n'étiez pas mariée. La première était artiste, le second un scientifique. Il était plus névrosé que moi, et ça me convenait tout à fait. Rebecca Anselem, ah oui, vraiment? Vivian Gornick, absolument, je trouvais que ça lui donnait un côté sensible, poétique. J'étais mariée depuis 2 ans et demi quand je suis tombée dans le féminisme. J'ai donc divorcé, j'avais 35 ans, je n'avais jamais été aussi belle. Et j'ai commencé à écrire pour le Village Voice pour qui j'écrivais donc un grand papier par an. Et puis, pendant des années j'ai eu des aventures de 6 mois qui se suivaient les unes les autres sans rencontrer une personne avec qui j'avais envie de construire quelque chose. Rebecca Anselem, pourquoi? Ce n'est probablement pas la bonne question. À un moment, c'est utile d'arrêter de se poser la question du pourquoi. Vivian Gornick, précisément. Mon combat dans ma vie n'a pas été un combat pour les hommes, pour mes mariages, mais pour mon travail. Mon travail est d'écrire. Rebecca Anselem, que faites-vous quand vous avez une deadline, que vous devez écrire quelque chose, et que vous n'avez aucune inspiration? Vivian Gornick, non. Je souffre. En silence. C'est terrible. Rebecca Anselem, moi, je vais à la piscine. Vivian Gornick, je vais marcher. Ça prend toujours du temps, et c'est un temps incompressible. Vers la fin de mes années 50, j'étais, ou du moins je croyais que j'étais éperdument amoureuse d'un homme. J'essaie de lui faire, de lui faire dire des choses. J'étais profondément malheureuse. Et puis, un jour, il m'a dit. Je suis juste un personnage dans un paysage fantastique que tu t'es construit. Et je lui ai répondu, quoi? Mais c'est moi qui dis ça normalement. Il me rétorque alors qu'il ferait tout ce que je lui demandais de faire, en répétant ce que je lui avais demandé ce jour-là, mais qu'il n'avait pas confiance en moi. Comment ça tu ne me fais pas confiance? C'est moi qui pense ça. Et puis, je suis complètement une personne de confiance. Je me suis rendu compte qu'il avait raison. Qu'ils avaient tout raison de ne pas me faire confiance. Je n'étais pas entièrement engagée dans cette relation. Par la suite, j'ai eu une aventure, que j'ai relatée dans Attachement féroce, avec un homme bien plus vieux que moi, et marié. Et il n'avait pas l'intention de se séparer. Et j'étais contente qu'il n'en ait pas l'intention. Je suis restée longtemps avec cet homme, et il m'a beaucoup appris sur l'amour. Rebecca Amselem, vous êtes avec quelqu'un maintenant ?
Vivian Gornick, non.
Rebecca Amselem, c'était quand votre dernière relation ?
Vivian Gornick, oh, il y a 10, ou 15 ans ? Depuis, je ne cherche pas.
Certaines personnes pensent que je suis dévouée à la solitude. C'est absolument faux.
Rebecca Amselem, peut-être est-ce lié à votre condition d'écrivaine ?
Écrire nécessite une certaine solitude, vous devez être consciente de ce qui vous entoure, vous retrouvez seul aussi, beaucoup, pour analyser ce que vous vivez.
Vivian Gornick, oui.
Et j'ajouterais que pour les femmes cela s'avère être problématique.
Pour les hommes, jamais.
Les hommes disent, j'ai besoin d'être seul, et les femmes agissent en fonction.
Ils ajoutent,
mon besoin d'être seul est plus grand que ce que tu me demandes de faire.
Et elle répond,
il n'y a pas de problème.
Vous connaissez le poète polonais Czesław Miłosz ?
Rebecca Amselem, non.
Vivian Gornick, c'est un grand poète.
Il est mort maintenant.
Quand sa femme est morte, il a écrit ses poèmes, dans lesquels il dit qu'à chaque fois que sa femme lui proposait de faire quelque chose, il disait non.
Il s'enfermait dans son bureau, et il écrivait.
Ses poèmes sont une sorte de mea culpa.
Rebecca Amselem. Écrire, pour une femme, c'est politique.
On nous a demandé de nous taire, d'être invisible.
Pensez-vous que raconter nos histoires est une manière de les légitimer ?
Est-ce pour cela que vous avez décidé d'écrire sur votre vie personnelle ?
Vivian Gornick. J'ai commencé à écrire en tant que journaliste dans les années 80 au moment où le journalisme personnel était en vogue.
Et il y avait plein d'écrivaines, et d'écrivains qui le pratiquaient.
Joanne Didion, Normal Mailer, Tom Wolfe, toutes ces personnes étaient en train de créer un nouveau genre.
Ces écrivains ES s'utilisaient pour commenter la culture, et la politique.
Vous alliez à un dîner, et puis le lendemain vous écriviez ce qu'il s'était passé à ce dîner, en fonction de vos centres d'intérêt.
Tom Wolfe l'utilisait pour se moquer des radicaux, des hippies.
Moi, je dénonçais le sexisme en racontant les choses affreuses qui s'y disaient.
J'étais une écrivaine spécialisée dans la non-fiction.
Chaque mouvement social commence, lorsque des personnes qui ont souffert d'injustice sociale commencent à raconter leurs histoires.
Ce sont deux choses différentes.
Rebecca Amselem, et voilà la question sur les utopies.
À quoi ressemble une utopie féministe ?
Vivian Gornick. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, au début de ma carrière.
Je pensais que cela impliquait que les femmes, et les hommes devaient se répartir davantage les tâches domestiques.
Il fallait pour cela qu'il y ait une révolution socialiste,
que les hommes travaillent moins, et qu'ils consacrent plus de temps aux tâches domestiques.
La baisse de la productivité permettrait de faire changer les valeurs sociétales.
Aujourd'hui, je remarque que les femmes, et les hommes travaillent autant, et que personne n'est heureux.